Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, tout de suite avec vous, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle. Bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir et à la une, la France qui étouffe. 12 départements placés en alerte rouge canicule pour demain. 25 autres en alerte orange. Claire Delorme va scruter les thermomètres pour nous tout au long de l'émission. Bonsoir Claire.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Ça y est, on a atteint localement les 40 degrés cet après-midi. Et ça, c'est du jamais vu en métropole un 16 juin.
Exactement, ça s'est principalement passé dans l'Aude et dans l'Hérault comme Argelès ou encore à Moulay-Beausselle où l'on a enregistré 40,8 degrés à l'ombre et déjà quelques records de battus. C'est le cas par exemple à Nîmes avec 37,7 degrés ou encore à Mont-Aigoual situé en altitude près des Cévennes. Donc comme quoi ce n'est pas rien, 27,6 degrés. Dites-vous bien que cette température ce n'est qu'un préambule, le pire est à craindre pour demain et samedi avec des pointes à 40 degrés qui vont se généraliser.
La canicule à la une dans les départements en alerte rouge, l'école ne sera pas obligatoire demain. Que prévoit exactement cette vigilance? On va vous expliquer dans quelques secondes dans le journal de Marion Calais. Bonsoir Marion.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. C'est la double, voire la triple peine en Île-de-France. En plus de la chaleur, la pollution et même à Paris, dans certains arrondissements, la grève du ramassage des poubelles, ça commence à sentir. Dans ce journal également, cette visite européenne à Kiev, déplacement de 4 dirigeants, dont Emmanuel Macron, en version originale.
Si la Ukraine, l'Ukraine n'est pas morte, ni la gloire, ni la liberté de l'Ukraine ne sont mortes.
La France qui, comme l'Allemagne, promet un soutien militaire et appelle à ouvrir les portes de l'Europe à l'Ukraine.
Et la Russie riposte ce soir, elle coupe une partie du robinet du gaz à la France. La brigade RTL vous explique tout dans un quart d'heure.
Et puis à 13 jours du verdict, la suite des plaidoiries de la défense au procès des attentats du 13 novembre.
Dans un quart d'heure également, la bataille des législatives. Suite J-3 avant le second tour, notre invité de 18h15 est en danger. Amélie de Montchalin en ballottage défavorable dans l'Essonne. La ministre de la Transition écologique qui joue son poste. À 18h40, on va défaire le monde. L'info autrement avec Cyprien Signy et son équipe. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Le menu.
Ce soir, vous en parliez dans les titres. Grève du ramassage des ordures dans une partie de Paris. On vous plonge dans les coulisses du métier d'éboueur. Lumbago, rat et horaire décalé. Vous allez découvrir le quotidien de ceux qui ramassent nos poubelles. Au menu également, le gros flop des jeunes avec Macron et une rencontre assez improbable avec ce Français qui vise le titre de champion du monde de... remplacement de pare-brise.
Eh oui, à 19h15, on va refaire le monde avec Éric Brunet et les polémistes.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
Et record donc battu. Jamais il n'a fait aussi chaud aussi tôt dans l'Hexagone.
40 degrés relevés aujourd'hui dans plusieurs communes de l'Hérault, notamment à Saint-Jean de Minervois. 40 degrés atteints tout à l'heure à 16h32 précisément, nous dit Météo France. Et les prochains jours s'annoncent encore très chauds. 12 départements sont même placés en vigilance rouge, de la Vendée aux Landes jusqu'à la Haute-Garonne, du Tarn à la Vienne. De nouveaux records de température sont attendus demain et samedi. Et là encore, les 40 degrés pourraient être atteints, voire dépassés sur ce grand quart sud-ouest.
Alors, c'est la quatrième fois seulement depuis 2004 que cette vigilance rouge est activée pour cause de canicule. Bonsoir Agathe Landais.
Bonsoir.
Ce niveau d'alerte, il implique quoi concrètement?
En fait, il permet aux préfets des 12 départements concernés de mettre en place toute une série de restrictions. Ils peuvent décider d'interdire certains gros événements comme des manifestations sportives, des festivals. Ils peuvent aussi demander aux crèches, aux centres de loisirs ou aux organismes de vacances d'annuler des sorties, des fêtes ou des activités sportives. Certains établissements pourront même être totalement fermés si la température dans les locaux est trop élevée. Pendant la canicule de 2019, plus de 250 écoles primaires avaient dû fermer, les sorties scolaires avaient été annulées et le brevet des collèges avait même été reporté de quelques jours. Mais à ce stade, rien de tout ça n'a encore été annoncé pour les prochains jours chez nous.
Les précisions d'Agathe Landais pour RTL.
Alors, dans ces conditions tout de même, écoliers et collégiens ne seront pas obligés de se rendre en classe demain, annonce du ministère de l'Éducation nationale dans ces 12 départements en alerte rouge. Denis Grandjou, vous êtes justement dans l'un de ces départements, en Gironde, à Arcachon, pour RTL, annonce diversement reçue par celles et ceux que vous avez croisés.
Oui, Marie est venue chercher sa petite fille dans une école primaire d'Arcachon.
On n'a pas de consigne de la part des maîtresses ou non.
Pour elle, c'est sûr, la petite Morgane restera à la maison.
Oui, on reste à la maison, il y a la piscine à la maison, donc c'est parfait.
Romane est collégienne, pour elle, pas question de rater les cours demain.
Franchement, je pense que demain, j'irai au collège parce qu'il n'y a pas de raison que j'y aille pas. Enfin, c'est pas non plus insoutenable la chaleur, mais enfin, je sais pas s'ils mettent la clim à l'intérieur des locaux, mais Je trouve que sincèrement, ça va.
En fait, beaucoup de parents interrogés semblent vouloir temporiser, attendre que la nuit passe.
On verra, je verrai demain matin, selon les températures, parce que c'est vrai que nous, ça varie beaucoup. S'il fait vraiment trop chaud, je dirais qu'il peut rester à la maison, c'est pas arrivé.
Ils peuvent pas non plus rester dans des classes où il fait 43 degrés. Comme là, il fait 43 degrés, je pense que je vais les garder, oui.
Oui, 43 degrés en classe, ouais. Évidemment, ça peut justifier de rester à la maison demain. Reportage de Denis Grandjou à Arcachon pour RTL. Ce soir, par ailleurs, 25 autres départements sont en alerte orange canicule, de la Bretagne à la Drôme et le long des Pyrénées.
Et sachez par ailleurs qu'un numéro vert canicule a été activé par le gouvernement, le 0800 06 66 66.
Une chaleur toujours particulièrement difficile à supporter en ville. Et si en plus vous ajoutez à ça, comme à Paris depuis lundi, une grève du ramassage des ordures, vous obtenez un très désagréable cocktail. La moitié des arrondissements de la capitale sont touchés par ce mouvement illimité des conducteurs de camions poubelles pour de meilleurs salaires. Reportage dans le très chic 16e arrondissement de Paris, signé Martin Choc.
Dans une seule rue, un amoncellement de poubelles tous les 10 mètres. Certaines sont en plein soleil, on voit les mouches voler. Anne habite le quartier, elle est écœurée.
L'odeur, c'est l'odeur des poubelles qui macèrent au soleil. Il y a plus la chaleur, évidemment, les odeurs remontent, c'est épouvantable, c'est dégoûtant.
Et certaines poubelles sont éventrées à quelques mètres seulement des terrasses. Thierry gère un hôtel-restaurant, il espère que la situation s'arrangera rapidement.
Parce qu'on va être confronté à un problème sanitaire en urgence. En période estivale à 40 degrés, donc avec la macération de toutes les ordures qui sont dehors, ça augmente la profilération de tout ce qui est nuisible. Donc là, les clients avec les poubelles devant les terrasses, eh ben, ils ne s'assoient pas pour manger, forcément, surtout quand il y a 40 degrés et que ça macère. Voilà, on est pris en otage, quoi, une fois de plus.
Voilà, professionnels et riverains partagent la même inquiétude sanitaire, celle de voir ces poubelles macérer plusieurs jours en plein soleil. Il a fait 31 degrés cet après-midi à Paris.
Voilà, et pour ajouter aux réjouissances en Ile-de-France, pollution à l'ozone demain, liée évidemment à ces fortes températures, la vitesse dans la région est abaissée de 20 km/h sur les routes.
RTL Soir.
18h06, des mots aux actes. En déplacement à Kiev, Emmanuel Macron réaffirme le soutien de la France à l'Ukraine et annonce de nouvelles livraisons d'armes.
Paris va faire passer à 18 le nombre de canons César livrés, c'est ce qu'a fait savoir tout à l'heure le chef de l'État.
Nous poursuivrons les livraisons de matériel militaire, notamment les canons César qui permettent aux soldats ukrainiens de se défendre plus efficacement face aux attaques de l'armée russe sur le sol de l'Ukraine. La France, depuis le premier jour, a scrupuleusement tenu ses engagements et à chaque fois que j'ai pris un engagement à votre endroit, il a donné lieu à une décision et à une mise en œuvre rapide. Car nous savons, il faut du matériel, mais il le faut vite. C'est aussi pourquoi, au-delà des 12 Césars d'ores et déjà livrés, conformément à vos demandes, j'ai pris la décision pour que dès les prochaines semaines, 6 Césars additionnels puissent l'être.
Aux côtés d'Emmanuel Macron pour ce déplacement qu'il a conduit sur les traces des massacres d'Irpine dans la banlieue de Kiev, les dirigeants roumains, italiens et allemands, Berlin, qui promet à l'Ukraine aussi un soutien militaire aussi longtemps que nécessaire.
Bonsoir Bénédicte Tassard. Bonsoir. Chef du service international ici à RTL. Il a donc été question d'armes aujourd'hui, mais aussi et surtout d'Europe, avec un message aux Ukrainiens. Nous sommes prêts à vous accueillir au sein de l'Union.
Oui, parce que les Ukrainiens ont mérité ce droit d'obtenir le statut de candidat à une adhésion à l'Union européenne, c'est ce qu'a plaidé Zelensky au cours d'une conférence de presse commune. Mon pays est prêt à travailler pour devenir membre de plein droit. Et il faudra travailler. Emmanuel Macron l'a rappelé. Oui, l'Italie, l'Allemagne, la Roumanie et la France défendront la semaine prochaine, pendant le prochain sommet européen, cette entrée immédiate de Kiev dans le couloir qui mène à l'Union européenne, mais avec une feuille de route. Cela veut dire que l'Ukraine doit procéder à des transformations colossales au niveau budgétaire, de lutte contre la corruption par exemple. Cependant, le point positif pour Kiev, quand on est candidat, on touche des budgets, des fonds européens pour se moderniser, pour l'énergie, les transports, le statut de candidat serait donc déjà une grosse avancée. Attention, prévient Mario Draghi, le chef du gouvernement italien, le chemin de candidat à membre de l'Union européenne pourrait être long, le processus pourrait durer des années.
Explication signée Bénédicte Tassard, merci.
Et votre journal continue dans un instant dans RTL Soir. Nous sommes à 3 jours du second tour des législatives et Marine Le Pen part à la conquête de l'Est. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Sellier. Julien Cellier,
RTL Soir.
18h10, la suite de votre journal dans RTL Soir. Le second tour des élections législatives, c'est dimanche, dans trois jours, avec de nouvelles terres dans le viseur du Rassemblement National.
Au-delà de son fief des Hauts-de-France, Marine Le Pen espère implanter son parti dans le Grand Est, particulièrement en Moselle, département où son parti est arrivé en tête dans 5 des 7 circonscriptions.
Marine Le Pen s'est donc rendue aujourd'hui dans la ville RN de Hayange. Vous l'avez suivi pour RTL, Marie Mollet.
Oui, en Moselle, à Hayange, les électeurs du RN font le pied de grue en plein cagnard pour tenter d'apercevoir la patronne et le carré blond.
Madame, regardez-moi.
Moi aussi, je veux une photo avec vous.
Ah oui, j'ai attendu exprès.
Battez-vous.
Merci, on se bat.
Marine Le Pen a ici ses groupies et son parti cartonne dans les urnes depuis près de 10 ans. Mais de députés, zéro. Elle n'en a jamais eu. Alors cette fois, elle y croit. Elle est venue conjurer ses électeurs de se déplacer.
Je viens dire aux habitants de la Moselle, vous avez la possibilité d'avoir des députés patriotes. Voilà, ça n'a pas toujours été le cas. Aujourd'hui, vous pouvez avoir des élus patriotes. Ne vous privez pas de cette chance-là. J'ai la retraite à 65 ans. C'est voter à l'Assemblée nationale.
L'enjeu, c'est de planter son drapeau dans de nouvelles terres, au-delà du bassin minier. Mais Marine Le Pen aura aujourd'hui fait un déplacement service minimum, quelques pas devant la mairie, un café au comptoir, et puis s'en va. On va être franc, glisse un proche, elle en peut plus. Et l'objectif ultime, c'est-à-dire un groupe à l'Assemblée, est déjà quasi assuré.
Un reportage de Marie Mollet à Hayange pour RTL. Et sachez que demain matin, à 7h40, Elisabeth Borne, la première ministre, sera l'invitée de RTL d'Alba Ventura depuis Vire dans le Calvados où elle se présente.
On l'apprend ce soir, le migrant égyptien blessé par un tir de la police après un refus d'obtempérer à Sospel dans les Alpes-Maritimes est décédé. Deux enquêtes sont ouvertes sur les faits.
La dernière ligne droite dans le procès des attentats du 13 novembre. Plaidoirie de la défense jusqu'au 24 juin prochain.
Plaidoirie que vous suivez pour RTL, Cindy Hubert, et qui ont porté aujourd'hui sur Farid Karkash, accusé d'avoir fourni de faux papiers au commando djihadiste, un accusé qui figure d'OVNI dans le box.
Oui, il faut bien admettre que l'accusé détonne un peu. Je ne sais pas ce qu'il fait ici, a d'ailleurs dit Salah Abdeslam. C'est le seul à ne connaître aucun des accusés. Un bloc d'angoisse engoncé dans sa chemise blanche. Car Farid Karkash est dépressif. Il a des tocs. On le voit régulièrement sortir une lingette pour laver la vitre du box. Les objets doivent toujours être bien droits. Et la prison n'a pas arrangé ses phobies. Il a des plaques sur le corps et une pelade derrière la tête qu'il cache par une queue de cheval. Depuis le début, Farid Karkash assure qu'il ne savait pas qu'il avait affaire à des terroristes. Son avocate insiste sur son rôle de toute petite main, l'intermédiaire d'un intermédiaire pour 3 cartes d'identité, tout cela pour 300 euros. Il risque aujourd'hui 20 ans de prison. Pourquoi retenir ce costume trop grand pour lui, plaide l'avocate. La défense demande à la cour de retrouver la raison et de le condamner simplement pour complicité de faux. Non, Farid Karkash n'a pas dîné avec le diable. Il vous l'a dit, même pour tout l'or du monde, je ne l'aurais pas fait pour des terroristes.
Merci. Cindy Hubert devant la cour d'assises spéciale de Paris pour RTL.
Dans le journal de Marion Calais. Merci Marion, à tout à l'heure. Le temps maintenant clair, donc on l'a dit, 12 départements sont placés en alerte rouge canicule pour demain, notamment dans l'ouest et le sud-ouest du pays. On a atteint localement les 40 degrés cet après-midi, c'est du jamais vu pour une mi-juin en métropole dans l'Hexagone.
En effet, les habitants de l'Ouest seront éprouvés par cette chaleur étouffante, suffocante même. Et cela commence dès cette nuit où le mercure aura du mal à baisser en dessous des 21 degrés. Il fera à l'aube 23 degrés à Toulouse et à Perpignan par exemple, ou encore 21 degrés à Bordeaux et à Nantes. Ailleurs, donc pour les régions septentrionales du centre et à l'Est, ce sera encore respirable avec une moyenne de 15 à 17 degrés. Donc profitez-en pour dormir la fenêtre ouverte, aérer les foyers, car la après-midi, bien à nouveau, la chaleur prévoit d'être donc vraiment flamboyante, brûlante, avec plus de 40 degrés dans le quart sud-ouest, jusqu'à 35 degrés de la vallée du Rhône à la Normandie, en passant par la Bourgogne et le centre-val de Loire, et sinon partout ailleurs, surtout sur un grand quart nord-est, la région PACA et la Corse, ça oscillera entre 30 et 33 degrés.
Merci Claire.
La brigade RTL Soir.
Et ce soir, la brigade RTL s'interroge. Allons-nous manquer de gaz ? Aujourd'hui, Emmanuel Macron, vous l'avez compris, est en Ukraine avec d'autres dirigeants européens. Et bien pendant ce temps-là, la Russie riposte avec une autre arme, son précieux gaz dont l'Europe est en dépendante. On découvre que Moscou est en train de couper une partie du robinet. On va poser 4 questions à la brigade RTL. Bonsoir Éric Vanier.
Bonsoir.
Alors la France reçoit moins de gaz russe, c'est ça en ce moment ?
Oui, depuis 48 heures, mais Engie ne veut donner aucun chiffre sur l'ampleur de ces restrictions d'approvisionnement. C'est du gaz qui normalement aurait dû arriver par le gazoduc Nord Stream 1 via la Baltique. Engie précise simplement que pour l'instant, ses clients, particuliers et industriels, ne sont pas impactés.
Et les autres pays européens, est-ce que eux aussi ils sont touchés ?
Oui, en fait, depuis le début de la guerre, la Russie ferme progressivement le robinet vers l'Europe. Le débit de Nord Stream 1 est tombé à 40%. Aujourd'hui, c'est donc la France, l'Allemagne et l'Italie qui étaient visées au moment où leurs dirigeants étaient à Kiev. Mais certains pays, comme la Pologne ou la Bulgarie, doivent déjà se passer totalement du gaz russe.
Officiellement, pourquoi les Russes coupent le robinet? Ils ont une excuse officielle?
Alors, la Russie affirme que ce ne sont pas des mesures de rétorsion, mais des problèmes techniques qui justifient cette baisse des livraisons de gaz. Une turbine par en réparation au Canada qui tarderait à revenir, des compresseurs qui ne seraient pas livrés à cause des sanctions internationales. Évidemment, en Europe, personne n'y croit, c'est un prétexte. Ce que veut Moscou, c'est faire monter les prix en créant la pénurie et déstabiliser les pays occidentaux.
Est-ce qu'il faut craindre des conséquences sur notre quotidien, nous clients ?
Dans l'immédiat, non. Nous arrivons à l'été, nous avons des réserves. Ouais. Mais l'hiver prochain, ça pourrait créer de gros problèmes. Si d'ici là, nous n'avons pas diversifié nos sources d'approvisionnement au Qatar, en Algérie, en Norvège ou ailleurs, et augmenté nos importations de gaz liquéfié en provenance des États-Unis, notamment à bord de méthaniers, sinon, la Russie aura gagné.
Les explications de la Brigade RTL. Merci Éric Vanier. La suite dans RTL Soir, c'est notre invité, bien entendu, dans un instant. Ce sera Amélie de Montchalin, notre invitée, la ministre de la Transition écologique, ministre en danger à 3 jours du second tour des élections législatives en ballottage défavorable dans sa circonscription de l'Essonne face à la NUP, l'Alliance de Gauche. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Sellier. Julien Sellier,
l'invité d'RTL Soir.
18h20, bonne fin de journée avec RTL Soir. J-3 maintenant avant le second tour des élections législatives, le temps des questions. Qui gouvernera? Avec quelle majorité? Absolue? Relative? Et puis, si les troupes d'Emmanuel Macron s'imposent, est-ce que le gouvernement devra être remanié? Une certitude, des ministres jouent leur avenir dimanche. C'est le cas d'Amélie de Montchalin, notre invitée ce soir, ministre de la Transition écologique. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez obtenu plus de 31% des voix au premier tour dans votre 6e circonscription de l'Essonne, derrière votre adversaire, le socialiste Jérôme Guedj pour la NUPS, plus de 38% des voix, c'est-à-dire un retard de 2815 suffrages. Vous multipliez les déplacements sur le terrain, ces voix, vous voulez aller les chercher une par une ?
Alors, je ne vous parlerai pas de ma campagne en Essonne, puisque ce ne sont pas les règles de cette interview. Je crois que l'essentiel, mais partout en France, c'est que nous puissions, avec un président réélu, expliquer aux Français et surtout montrer aux Français qu'ils ont un choix décisif à faire, de savoir où va notre pays. Vous avez un certain nombre de forces politiques qui veulent rejouer un troisième tour, voire même un quatrième tour dans la rue s'ils n'obtiennent pas les résultats qu'ils espèrent. Et d'un côté, vous avez un projet de désordre, de ruine économique, de mensonge sur une pseudo-écologie à de nombreux titres. Et de l'autre, vous avez le projet que le président de la République a présenté aux Français, un projet pour le plein emploi, pour le pouvoir d'achat, pour une transition écologique pour tous les Français dans tous les territoires, ce qui sont évidemment les actions prioritaires que je mène, pour l'éducation, pour la santé. Et donc, je pense qu'il faut que nous soyons extrêmement clairs. Jean-Luc Mélenchon et sa NUPS, vous savez, c'est une force qui a été créée à partir de 4 candidats, de 4 projets pendant les présidentielles, que tout opposait. Et au fond, des hommes et des femmes qui ne sont d'accord sur rien, qui aujourd'hui envoient beaucoup de poudre aux yeux et beaucoup de violence, puisqu'ils promettent beaucoup, mais on sait bien qu'ils n'ont qu'une, en fond, objectif, c'est les gens se diviser. Et au fond, de ne rien faire.
Amélie de Montchalin, je me permettais de parler de votre circonscription parce que nous avons reçu Jérôme Guedj, votre opposant, dans les auditeurs en la parole à la mi-journée, et il a pendant quelques minutes parlé de votre campagne en estimant qu'il y avait un vent de panique chez vous. Donc les règles, puisqu'on parle de temps de parole effectivement et que les règles sont précises, vous permettent de lui répondre ce soir.
Mais moi, je pense que la campagne d'un premier tour est suivie par une campagne de deuxième tour, qu'elle se mène sur le terrain, qu'elle est là pour convaincre les Français de l'action que nous avons menée pour eux, des résultats que nous avons et de ce que nous voulons faire en étant particulièrement concentrés sur le fait de proposer aux Français dans les prochaines semaines, les prochains jours, des mesures que nous pouvons appliquer. Sur le pouvoir d'achat, notre projet de loi est prêt. Sur le plein emploi, nous travaillons déjà avec les entreprises dans la suite du plan de relance pour évidemment atteindre cet objectif.
Mais Amélie Montchalin, vous ne répondez pas à ma question. Est-ce qu'il y a
de fake news
quand de la fébrilité chez vous?
Mais je suis voyée à votre Je suis très mobilisée ces dernières heures, heure par heure d'ailleurs, avec toutes les préfectures de notre pays, sur une vague de canicule exceptionnelle qui touche notre pays et qui montre que le changement climatique est là. Je suis évidemment en train de m'acquitter de toutes mes responsabilités. Je travaille pour les Français, c'est bien la moindre des choses. Je travaille aussi pour convaincre les électeurs de ma circonscription qu'ils ont un choix décisif à faire et je ne rentrerai pas ici dans les polémiques. Je crois que c'est sur le terrain, auprès des électeurs qui doivent choisir, que les choses se passent.
Alors, vous avez évoqué tout à l'heure Jean-Luc Mélenchon. C'est vrai qu'un duel à distance s'est installé avec Emmanuel Macron ces derniers jours. Emmanuel Macron, qui a répondu à distance depuis la Roumanie et à ses opposants de droite comme de gauche hier. Il est à l'étranger, donc pendant cet entre-deux-tours, le chef de l'État en Ukraine aujourd'hui. On l'a évoqué dans le journal de 18h, visite très symbolique. D'ailleurs, Marine Le Pen l'accuse de se servir du symbole pour avoir une influence sur les législatives, qu'est-ce que vous répondez ? Ouais, on a perdu la liaison, je crois, avec la ministre de la Transition écologique, Amélie de Montchalin, qui est à distance dans sa circonscription.
Je réponds, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ont eu sur l'Ukraine des déclarations antérieures très ambiguës, qu'ils essayent aujourd'hui de polémiquer, et au fond, ça ne révèle qu'une seule chose.
Bon, on a perdu la liaison avec Amélie de Montchalin, la ministre de la Transition écologique. On s'en excuse, chers auditeurs. C'est malheureusement parfois les aléas du direct. Une liaison difficile entre les Hauts-de-Seine et nos studios et l'Essonne et la 6e circonscription d'Amélie de Montchalin. On s'en excuse auprès, bien entendu, évidemment, de notre invité également. On vous rappelle aussi que demain à 7h40, Elisabeth Borne, la première ministre, sera l'invitée d'Alba Ventura depuis Vire, dans le Calvados, où elle se présente. On va marquer une petite pause et ensuite les dessous de l'actu, les dessous de la chaleur, toujours dans un centre d'assistante maternelle où on tente tant bien que mal de protéger nos enfants. C'est un peu body et biberondo à volonté. Et puis laissez-vous tenter dernière, on va vous emmener au théâtre, en plein air, coucher de soleil et petit chaperon rouge. À tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Sellier.
Bonne fin de journée, vous écoutez RTL Soir et on approche tout doucement de l'heure 18h30.
RTL Soir avec Julien Sellier.
L'heure où tous les soirs, Marion Calais vous rappelle les trois grands titres de l'actualité de la journée.
Et le premier titre, évidemment, c'est la chaleur avec ses 40 degrés déjà atteints. Et ça, Claire Delorme, c'est inédit pour un mois de juin.
Exactement, et ça s'est passé donc dans l'Aude et dans l'Hérault, comme Argeliers où il a fait 40,8 degrés, ou encore à Saint-Jean de Minervois, dans l'Hérault, où il a fait 40 degrés tout rond.
Alors aujourd'hui, Météo France a placé 37 départements en alerte, dont 12 en alerte rouge sur un grand quart sud-ouest. La vigilance va débuter demain après-midi. Et là encore, les 40 degrés pourraient être atteints, Claire.
Exactement, et ça va surtout se passer dans la vallée de la Garonne, où il va faire vraiment le plus chaud, avec 40 degrés attendus à Bordeaux, ou à Agen, ou encore à Auch, à Montauban, 41 degrés à Toulouse et à Cognac, et ça, ce n'est que pour les grandes villes. On pourrait donc dépasser ces 41 degrés localement en campagne, au meilleur de la journée et sous abri.
Merci Claire Delorme pour ces prévisions météo. Dans l'actu aussi, en ce jeudi soir, Emmanuel Macron à Kiev, le chef de l'État qui a notamment promis la livraison de 6 nouveaux canons César après déjà les 12 annoncés le mois dernier. Et puis le déplacement des deux présidents des commissions des lois et de la culture du Sénat au Stade de France après les incidents de la finale de la Ligue des Champions. Ils ont dénoncé d'abord l'impréparation des autorités publiques et qualifié aussi de faute grave la non-conservation des images de vidéosurveillance.
Merci Marion, merci Claire.
RTL Soir,
les dessous de l'actu.
Et les dessous du coup de chaud maintenant pour nos enfants, les plus petits, si fragiles face à ces températures extrêmes que nous relevons ce soir. On vous emmène maintenant dans une maison d'assistante maternelle, la MAM, petit à petit, dans le quartier de Doulon à Nantes. Bonsoir Mathieu Lopineau.
Bonsoir Julien et bonjour à tous.
Alors vous avez rencontré aujourd'hui un personnel plus que jamais mobilisé.
Oui, effectivement, j'ai rencontré donc ces quatre assistantes maternelles. C'est Frédéric, Séverine, Charlotte et Tiphaine. Elles s'occupent donc toutes les quatre de 14 enfants. Et on va voir avec elles justement comment on fait pour garder au frais tout ce petit monde. Bonjour.
Enchantée. On va essayer de ne pas parler trop fort pour les enfants qui sont à la sieste. On a la chance d'avoir une maison qui est plutôt fraîche.
Parce que 36 dans la rue.
Ouais, mais on le ressent pas ici. Je sais pas si vous le ressentez, mais nous on le ressent pas. Là, tout est fermé, les chambres c'est 21-22, la pièce de vie on est à 23-24.
Comment vous faites pour avoir autant de frais?
Alors, nous avons donc fermé les volets. On a fait une petite aération ce matin de bonne heure. On a donc après fermé les volets. Donc c'est la température idéale pour les enfants.
Les enfants se portent plutôt bien. Là, Léon est en body, il a les cuisses fraîches. Il est bien, il commence à être fatigué. Donc,
je sais.
Voilà, Léon, il dit bonjour. Il commence à être fatigué, donc on va bientôt aller au dodo. Puis la chambre est fraîche, donc il va bien dormir. Et là, on était avec les petits trains.
Il n'a pas l'air malheureux.
Il n'a pas l'air malheureux du tout.
Alors l'après-midi, on ne les sort pas. Pour nous, les températures sont trop chaudes.
Les enfants dorment en couche. On les déshabille, regardez Léon, bah par exemple, il est juste en body quoi. Donc voilà, on essaye de faire en sorte qu'il soit bien pour la sieste, ils boivent beaucoup.
Et pour les assistantes maternelles aussi, on imagine qu'être trop frais, c'est l'opportunité de travailler dans de meilleures conditions.
Oui, effectivement, s'occuper donc des enfants quand il fait chaud, bah, c'est pas forcément très agréable. Ouais. Et en plus, écoutez Séverine, elle a une technique, elle, pour pouvoir se rafraîchir.
Oui, c'est très important d'être nous bien déjà pour que les enfants puissent l'être aussi.
Quand il fait chaud, on est forcément plus fatigué, moins patiente. On a quand même un métier où la qualité principale, c'est d'être patiente. C'est pas évident.
Des fois, on leur fait prendre une petite douche avant la sieste. Oui. Nous aussi. À n'importe quel moment de la journée, si on sent que la température monte un peu, on va prendre une petite douche, on va s'hydrater un peu, parce que c'est aussi important que nous, on puisse être en forme.
Les dessous d'une maison d'assistante maternelle, donc où on tente par tous les moyens de se rafraîchir avec les petits face à ces températures qui atteignent donc des niveaux extrêmes. Merci beaucoup Mathieu Lopineau pour cette plongée dans l'univers des enfants en bas âge, et puis courage à tous les travailleurs aussi qui travaillent avec cette chaleur pas possible dans la plupart des régions. Merci Mathieu.
À bientôt.
RTL Soir,
les dessous de l'actu.
18h et maintenant 33 minutes.
Laissez-vous tenter dernière.
Allez, laissez-vous tenter dernière maintenant. Ça, c'est le moment rafraîchissant. Tous les soirs, la petite parenthèse culturelle. Julia Molcou est avec nous aujourd'hui. Bonsoir, Julia.
Bonsoir, Julien. Bonsoir à tous.
Et vous nous proposez un petit tour au théâtre dans le cadre du Festival d'Anjou qui est, paraît-il, le deuxième plus gros festival français de théâtre en plein air.
Ah bah ouais, c'est tout à fait ça. Et cette année, ce festival exceptionnel fête sa 72e édition. Il a commencé il y a 10 jours et se tiendra jusqu'au 3 juillet dans la région d'Angers, donc, avec à la direction artistique Jean-Robert Charrier. Jean-Robert Charrier, c'est le patron de la Porte Saint-Martin à Paris, et je peux vous dire qu'avec lui, la programmation est complètement délirante. De Pierre Arditi à Amanda Lear, de Barbara Schulz à Daniel Auteuil, Jeanne Chéral, Miossec ou encore Christiana Reali, tous les plus grands noms du théâtre, mais aussi, vous l'avez compris, de la musique, ouais, foulent les différentes scènes du festival. Et parmi toutes les merveilles qu'on trouve dans cette programmation, eh bien, il y a aussi certains des plus grands succès de Joël Pommerat. Joël Pommerat, c'est un metteur en scène français complètement à part, qui depuis 2004 réécrit notamment des contes très connus et les met en scène. Pinocchio, Cendrillon, qui se joue actuellement à la Porte Saint-Martin et qui est une merveille, et puis Le Petit Chaperon Rouge, qui se joue dans le cadre du Festival d'Anjou.
Il était une fois une petite fille qui n'avait pas le droit de sortir toute seule de chez elle, ou alors à de très rares occasions. Souvent, la petite fille restait chez elle, dans sa maison, une très petite maison. Des fois, des voisins passaient devant la porte. Elle les regardait. Des fois, il pleuvait. Des fois, il faisait beau.
Et ça n'est pas un spectacle pour enfants ?
Eh bien oui et non, ou plutôt pas uniquement par les enfants. Il n'y a pas que le narrateur hein, sur scène. Il y a évidemment le Petit Chaperon Rouge, il y a évidemment le loup. Tout comme dans sa version de Cendrillon, eh bien sa version du Petit Chaperon Rouge est bien ancrée dans notre réalité et presque dans notre époque, je dirais. Ça parle de la solitude, mais aussi de la peur de grandir, du passage à l'âge adulte, et bien sûr d'un certain désir. C'est épatant, je peux pas vraiment vous le décrire. C'est comme tout ce que fait Joël Pommerat, quoi. On frissonne, on est scotché, c'est effrayant, c'est séduisant à la fois. Vraiment, c'est un super spectacle à aller voir si vous êtes du côté de Saumur ou d'Angers même, puisqu'il y a des navettes qui sont mises en place à disposition du public. Voilà. Donc allez-y, prenez vos places. Le Petit Chaperon Rouge, ça sera demain soir à 20h30 et samedi à 17h. Et en plus, les lieux dans lesquels se jouent les spectacles à Anjou sont toujours des endroits absolument merveilleux. Donc avec le coucher de soleil.
C'est dehors, en plus, c'est génial.
Spectacle en plein air.
Courir en Anjou, oui, bah oui, voilà. J'ai un peu de mal à me rappeler parfois du début de la chronique. En deux minutes, je perds le fil. Merci beaucoup, Julia Molcou. Courir en Anjou, allez faire un petit tour dans ce superbe festival et allez voir le Petit Chaperon Rouge.
Laissez-vous tenter. Dernière.
Et RTL Soir continue tout de suite.
On va défaire. J'ai pas compris, moi. C'est quoi là ?
Oh là 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 là.
On va défaire sur une bonne base.
On va défaire le monde avec les taquins Cyprien Sini, Céline Landreau et Laurent Tessier. Bonsoir les amis.
Bonsoir à tous.
On va défaire dans un instant le travail de nos éboueurs. Grève des conducteurs de camions poubelles à Paris. On en parlait dans le journal de 18h. On va vous faire découvrir le quotidien pénible des hommes et des femmes qui ramassent vos ordures. À tout de suite sur RTL.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.